Nous entrons dans la deuxième étape et c'est déjà un fondement des 12 étapes, un fondement du vase restauré. Ce que nous allons voir ce soir, c'est une borne, c'est un fondement nécessaire pour le succès de la restauration. Il ne peut rien se passer de concret si ce soir nous ne rentrons pas dans cette dimension qui va vous être enseignée. Alors je demande toute votre attention de comprendre l'enjeu de ce soir, le défi qu'il y a à relever ce soir, afin que vous puissiez vraiment être transformé par la puissance de Dieu, par la volonté de Dieu. On rentre ce soir dans quelque chose qui est important parce que je trouve qu'on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe dans notre relation avec le Seigneur. Reconnaître une force plus grande que nous et lui remettre notre volonté. Reconnaître une force plus grande que nous et lui remettre toute notre volonté. Donc jusqu'à maintenant, on a admis que face au péché, nous étions impuissants dans notre condition et que nous n'avons pas la maîtrise de notre vie. Ce qu'on a pu constater entre l'introduction et cette première partie, c'est que nous sommes pécheurs, nous sommes nés dans le péché, mais que ce péché a eu un impact sur notre vie. Que ce soit à travers nos expériences sur cette terre, que ce soit à travers l'éducation, notre famille, là où nous sommes nés, ou que ce soit à travers les générations, ce que nous avons reçu de génération en génération, le péché a fait des dégâts dans la vie de chaque personne. C'est une réalité. On n'a pas choisi. On aurait voulu autre chose. Mais on est obligé de composer avec. Et donc ça, c'était la première étape, c'est de reconnaître, oui, l'impact de la puissance du péché dans ma vie. C'était un peu une marque de défaite dans cette situation-là. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que si on n'a pas conscience de l'impact du péché dans notre vie, alors on ne pourra pas donner toute notre vie au Seigneur. Nous donnons toute notre vie au Seigneur parce que nous savons que si nous ne donnons pas cette vie au Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Il faut bien comprendre ça. Le Seigneur est venu, Jésus est venu sur cette terre pour nous délivrer. Il est venu pour nous restaurer. Il est venu pour libérer les captifs. Mais pour être captif, il faut le reconnaître. Donc c'est une marque d'humilité. C'est une prise de conscience. Oui, Seigneur. J'avoue que j'ai essayé de m'en sortir par moi-même, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. C'est la première base, la première borne que nous avons mise. Le défi du bonheur, le défi de l'épanouissement que Jésus est venu apporter sur cette terre, quand il a commencé son ministère, c'était le sermon sur la montagne. Et regardez bien, dans Matthieu 5, il commence par ces mots, heureux, heureux. Pourquoi ? Parce qu'il nous veut heureux, tout simplement. Et donc, ce bonheur que Jésus nous a dédié, on l'a vu, on ne va pas tout revoir, hein, mais on a vu cette question du docteur de la loi qui interpelle Jésus, alors peut-être pour le piéger, effectivement, mais il lui dit, mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? Hein ? Il a parlé de vie éternelle. Parce qu'il aurait pu dire, mais que faut-il faire pour avoir le salut ? Et je pense que la réponse, elle était facile. Marc 16, 16. Crois, tu seras baptisé, tu seras sauvé. Mais la réponse était plus subtile. La réponse concernait la vie éternelle, Zoé. C'est-à-dire une vie qui ne concerne pas seulement la vie après la mort, après la vie. Non, je ne vous ai pas perdu. Qui ne concerne pas seulement la mort après la vie, mais qui concerne la vie maintenant, dès maintenant, à partir du moment où vous donnez votre vie à Jésus, vous recevez la vie éternelle. C'est une puissance qui agit maintenant. Et donc, il y a une transformation qui s'opère maintenant. Et donc, la réponse du docteur de la loi, elle était bonne, parce qu'il a bien répondu. Il a dit, pour avoir ce bonheur, pour avoir cette vie puissante en moi maintenant, Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous la pose la question. Bravo! Eh oui, la question, est, elle est fondamentale. Le problème, c'est que à force d'entendre les mêmes versets, on finit par s'y habituer. Et on ne réalise plus tout à fait la condition que Jésus a expliquée au docteur de la loi. Il a dit, t'as bien répondu. Et c'est pas le tout de bien répondre. Fais cela et tu vivras. Vivra étant Zoé, la vie éternelle. Tu vivras maintenant et pour l'éternité. Mais tu vivras maintenant. Et donc cette condition, elle est simple, elle est de bon sens, mais elle est fondamentale. C'est d'abord de mettre en premier Dieu dans sa vie. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Mais d'abord, tout, toute ton âme, toutes tes pensées, tout ton cœur. Hein, c'est pas un choix, c'est pas une partie. Tu choisis pas, tu choisis pas de dire je vais l'aimer un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. C'est radical. C'est Dieu en premier. Amen. Et donc, ça va être le leitmotiv de ce soir. Ça va être la question de ce soir. La question de ce soir, c'est que si on veut bénéficier de cette vie riche, de cette vie puissante, de cette vie qui c'est animé, c'est la vie de Dieu, c'est puissant. Si on veut bénéficier de ça, alors, il faut qu'on fasse attention au fait de mettre Dieu en premier dans notre vie. Et c'était le chant de ce soir. Je te donne mon cœur. On le chante tous. Mais est-ce la réalité? Donc on va voir ça en détail parce que on va s'apercevoir que si on ne donne pas tout à Dieu, ça veut dire qu'on garde des choses, et bien cette partie qu'on garde, malheureusement, elle ne sera pas restaurée. Comprenez l'enjeu? Si on veut, comme on a vu la première fois, faire un grand ménage dans notre vie, parce qu'il y a des parties sombres dans notre vie que nous ne connaissons pas forcément. Il y a les liens générationnels, ce que nous avons reçu, on ne connaît pas forcément. Il y a toutes des parties sombres de notre vie, mais le Seigneur connaît. Il faut tout donner pour dire, Seigneur, je veux le grand, grand, grand ménage. Pas un petit peu du ménage, je veux toutes les pièces, de fond en comble. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Jésus, donc lui, il nous indique comment va s'opérer notre transformation. Cette vie abondante, cette liberté que Dieu veut nous donner, va se réaliser à travers un défi, le défi des relations. Reprenons, aime Dieu, aime ton prochain, aime toi-même. Aime, c'est trois directions. Et si on simplifie tout ça, ce sont nos relations. Donc, si je résume, le défi de notre vie, c'est de savoir gérer nos relations. C'est une question qui va nous prendre toute notre vie. Et si vous réfléchissez 5 minutes, vos conflits, mes conflits, nos conflits sont de l'ordre relationnel. Réfléchissez. Vous êtes en conflit avec des gens. On est rarement en conflit avec son chien. On est rarement en conflit avec la tortue, avec sa tortue, son poisson rouge. Hein? On est rarement en conflit avec tout ça. On est en conflit avec des êtres humains. Donc notre vie, elle tourne autour des relations. Et la manière de gérer nos relations va déterminer la qualité de notre vie. La qualité de ta vie. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu n'es pas heureuse? Est-ce que tu en veux à des gens? Est-ce que les gens t'en veulent? Tout ça va déterminer ta qualité de vie. Ta qualité avec ton futur mari, avec ton mari, avec ta future épouse, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents, avec tout ton cercle, tout ça va déterminer la qualité de ta vie. Et la qualité de ta vie va être déterminée par ta manière de gérer tes relations. Amen ! C'est bon pour tout le monde ? Ah, j'ai oublié de le dire. C'est un enseignement interactif. Donc, vous avez le droit de m'interrompre et de dire, frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Et il n'y a pas de problème. Je ne vais pas m'énerver. Ce qu'on a vu, c'est qu'il faut partir de la réalité. Le défi qu'on a à relever, il part d'une réalité. Alors, pour les nouveaux, vous ne l'avez pas vu, mais pour les autres, ils l'ont déjà vu, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, elle est fondamentale pour comprendre les êtres humains. Si on ne connaît pas la fenêtre de Johari, alors on ne connaît pas ce qu'est un être humain. Regardez bien. Un être humain, il a quatre carreaux. D'accord ? Il a le carreau 1 qui est ouvert. C'est le plus facile. C'est-à-dire que moi, je suis le carreau 1 connu de soi. C'est-à-dire, c'est ce que je connais de moi. Je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, je connais mes faiblesses, je connais mes qualités. Voilà, je suis connu. Et puis, ben, tous les gens que je fréquente, ils connaissent aussi qui je suis. Donc là, le carreau 1, c'est un petit peu ouvert parce que c'est la fenêtre où tout le monde a vu sur le personnage. D'accord ? Le deuxième carreau, par contre, là, vous voyez, c'est marqué aveugle. Là, il est un peu plus inquiétant, celui-là. Ça, c'est ce que moi, je ne sais pas de moi. Il y a des choses que je ne vois pas. Je suis aveugle. Par contre, regardez bien de l'autre côté, il est connu des autres. Donc, ça, c'est la partie que moi, je ne vois pas, mais que tout mon entourage connaît. Et moi, je ne le vois pas. Donc, quand ils me disent quelque chose, comme je ne le vois pas, je dis, mais non, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Oui. Mais les autres, ils voient. Ils disent, hey, papa, il ne voit pas, il comprend rien. Il ne voit pas ce qu'il a ce problème-là. Mais tout le monde le voit. Donc, c'est un premier problème. Là, le 3, alors, plus compliqué, hein, c'est caché. Mais là, par contre, c'est caché pour les autres, mais pas pour moi. C'est-à-dire que le péché a fait des choses en moi, a provoqué des choses en moi qui ne sont pas très jolies. D'accord ? Et j'en ai un petit peu honte. Donc, je ne le promène pas sur les toits. Je le garde pour moi. Okay ? Moi, je le sais. Mais vous, vous ne le savez pas. Parce que je ne vous le dis pas. Parce que j'ai honte. Et je ne préfère pas le dire. Mais il est important de découvrir derrière le gars qu'est-ce qu'il cache. Là, je prends 2 secondes. Je prends 2 secondes pour les jeunes mariés. Enfin, ceux qui ont un projet de mariage. Je vous le dis, là, ce carreau-là, essayez de le trouver avant de vous marier. Hein. Parce que c'est marrant comme quand vous allez être 24 heures sur 24, 365 jours avec la même personne, comment le rideau va s'ouvrir et comment vous allez dire « Waouh, j'avais pas vu ça !» Comment ça se fait que j'avais pas vu ça ? Oh là là, je suis passé à côté. Et pourtant, il y a des gens qui vous en ont parlé. Rappelez-vous, il y a des gens qui vous ont dit « Il y a peut-être un problème. » Quoi ? Un problème ? Il n'y a pas de problème, lui. Oh, j'ai essayé de voir, il n'y a pas de défaut. Et vous rigolez. La personne va se faire piéger. Pourquoi ? Parce que l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Ah oui, des fois, il est un peu trop tard. Donc, un petit conseil hein, pour ceux qui veulent un petit copain rapidement et tout. Pour vous marier, prenez votre temps. Soyez pas trop pressés. De peur qu'après le mariage, vous découvriez des choses pas trop trop jolies. OK ? Et puis, il y a le quatrième carreau qui, lui, se découvre au fur et à mesure de notre vie. C'est le carreau 4 qui n'est pas connu de moi, C'est des choses qui sont en moi, mais que je n'ai jamais mis à jour, parce que je ne le sais pas. Et vous, vous ne le connaissez pas non plus. Par contre, à la suite d'un événement, d'une pulsion, d'un truc bizarroïde, ça peut émerger. Et là, vous savez ce que vous dites là ? Là, on vous raconte une histoire, ce qui s'est passé, un fait, et là, vous dites, non, c'est pas possible. Pas lui. Non, mais tu crois qu'on parle bien de la même personne ? Oui, oui, parle de lui. Hein. Non. Ah, mais j'aurais jamais cru. Oh ! Voilà. Avec la fenêtre de Jouary, vous avez une explication de tout ce qui se passe dans le monde. Et nous sommes dans cette fenêtre-là. Donc là, ce soir, chacun va prendre le micro et va me répondre pour la 3, cachée. Chacun va dire tout ce qu'il cache et qu'il ne veut pas dire aux autres. Il n'y aurait plus beaucoup de monde, là, je crois. Alors, à la suite de ça, il faut garder ça en tête. C'est comment fonctionne un être humain ? On a besoin de comprendre ça. On a besoin de comprendre qui on est pour pouvoir être restauré. Regardez à nos dysfonctionnements. Ça, c'est la première chose à faire. Il va falloir, pour être restauré, regarder à ce qui ne va pas en nous. C'est-à-dire qu'on va, arrêter d'avoir notre pilote automatique qui, lui, te dit toujours « Eh, c'est de sa faute. » Elle n'avait pas qu'à... Non, ça, c'est, elle n'a pas besoin de parler comme ça. Non, elle, d'abord, c'est parce qu'elle a agi comme ça. Non, mais je t'explique comment ça s'est passé. Tu vois comment il a fait ? Il a fait ça. Tu te rends compte ? Alors, hein. Non, c'est vrai, je lui ai tapé dessus. C'est vrai, c'est vrai. Mais et, tu sais comment elle m'a parlé ? Oh, tu comprends. Ouais. Donc, on va arrêter de dire c'est la faute des autres. Si on veut grandir, si on veut se soigner, on va arrêter de dire c'est la faute des autres. Et on va regarder à ce qui ne va pas en nous. Parce que c'est incroyable comment les gens se convertissent. Ils arrivent et ils font la prière. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Et quand tu leur parles d'un dysfonctionnement, ils disent, bon, non, je n'ai pas de problème, moi. En fait, il n'y a aucun problème. Donc finalement, ils sont pécheurs, mais de rien. Parce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Tu leur dis, tu n'as pas un petit souci avec ça ? Moi ? Non, pas de problème. Il n'y a plus de problème. Donc, il faut arrêter tout ça et se dire, comme tout le monde, j'ai été touché par le péché. Est-ce que ça enlève de ma valeur ? Est-ce que ça enlève qui je suis ? Non. Simplement reconnaître, comme tout le monde, j'ai des problèmes. Et si je veux guérir, si je ne veux pas traîner ça toute ma vie, ben, il faut que je le regarde en face. Donc, il va falloir en prendre conscience. Prendre conscience, vouloir changer, ça aussi c'est important. Parce que si on ne veut pas changer, il ne se passera rien. Regardez comment Jésus a fait avec Bartimée. Il est aveugle, le pauvre, il veut retrouver la vue. Il vient voir Jésus, mais attention, Jésus lui pose quand même la question. Que veux-tu, Bartimée, que je te fasse ? Et Bartimée dit, recouvrir la vue. Mais Jésus, il n'impose rien. Donc il faut le vouloir. Parce que Bartimée, ok, il retrouve la vue. Mais c'est fini de mendier, d'avoir les sous qui tombent dans la gamelle. Il va falloir qu'il aille travailler. Il va falloir changer de vie, c'est sûr. Mais il faut que ça soit ça. Il faut qu'il demande. Donc on a ce vouloir. Et enfin, ben il faut demander. Seigneur, une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai pris conscience, que j'ai dit, que j'ai vu mon problème, que j'en ai pris conscience, tu vois, et que je veux plus ça dans ma vie, je demande à Dieu de me l'enlever. Et là, le miracle a lieu. Mais il faut qu'il se passe tout ça avant. Un, je le reconnais. J'en ai pris conscience. Je ne veux plus. Seigneur, enlève-le-moi. Amen.
Amen.
Et ça, là, les dysfonctionnements, j'en ai mis quelques-uns, mais on ne peut pas mettre. La liste est exhaustive. Vous comprenez bien que la liste, on ne peut pas la faire. Il y a trop de problèmes dans un être humain. Heureusement, on n'a pas tous les problèmes rassemblés dans un être humain, parce que le pauvre, mais on en a tous une certaine catégorie. Hein. Et alors, j'ai mis du plus insignifiant, truc qui paraît un peu banal, hein, susceptibilité. C'est rare, ça. Ça se soigne, c'est rare. Pas facile de trouver des gens susceptibles. Les reproches. Hein, vous dites une réflexion à quelqu'un sans arrière-pensée, juste une réflexion. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en reproche. C'est un reproche. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous dites? On ne peut rien dire. C'était juste une remarque. Mais la remarque est passée en reproche. Bon, c'est pas pour vous, ça. Mais vous savez, il y a des gens chez qui ça arrive. Mauvaise humeur. Nous, on est tous de bonne humeur. Ça n'existe pas, ça. Vouloir toujours avoir raison. Bon, ça, c'est pas nous, ça. Encore moi. Je vois. Mensonge. Ah non, on est chrétien, on ment plus. Égoïsme. Ah non, ça, c'est pour les autres. Nous on pense à l'autre d'abord, nous. Vous voyez, ces petites choses-là. Et la liste pourrait continuer, mais je ne peux pas tout mettre. Ces petites choses-là, vous savez ce que ça fait? Ça pourrit la relation. Et qu'est-ce qu'on a dit il y a 5 minutes? Notre vie, notre épanouissement va dépendre de la qualité de nos relations. Donc, ces petites choses-là qui paraissent anodines, qu'on a fini par... on s'accommode de beaucoup de choses dans la vie. On a fini par s'accommoder de tout ça. Eh bien, ils ne sont pas mis à la lumière. Et donc, s'ils ne sont pas mis à la lumière, ben, ils ne sont pas soignés. Et donc, vous pouvez être avec quelqu'un de susceptible et ça peut durer toute la vie. Et là, je ne dis pas alléluia. Ce n'est pas drôle. Hein? Avoir quelqu'un de mauvaise humeur toute la journée, tous les jours. Et... Seigneur, la case 3, comment ça se fait que je n'avais pas vu ça avant? Après, ça peut être plus grave. Là, j'étais gentil dans les dysfonctionnements. Mais on va en trouver des plus graves. Forme d'emprise. Vous avez du contrôle. Vous avez des gens qui aiment contrôler. Hein? Et vous avez une forme d'infantilisation. Vous avez aussi une forme de dictature. Donc, à la base, c'était de l'autorité, sain. Mais, à cause du dysfonctionnement, c'est devenu une dictature. Donc, il y a quelqu'un qui fait régner à la maison l'ordre, mais au lieu que ça soit sous une forme d'autorité bienveillante, mais c'est une dictature. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tordu les Écritures et de façon à justifier le comportement. Et c'est de l'abus. Et là, c'est grave. Vous avez la jalousie maladive, le manque d'empathie, vous avez toutes les sortes de dépendances. Ça devient un peu plus embêtant dans la relation. C'est pas fini, on peut encore aller plus loin, regardez. Jusqu'aux pulsions diaboliques. Le gars, il est violent finalement. Il est violent. Tu le contredis, pas torse à une. Le viol, les incestes. Jusqu'au meurtre. Tout ça, là, c'est les dysfonctionnements. Tout ça, c'est les résultats du péché. Vous savez, il n'y a que nous, les chrétiens, qui sommes appuyés sur la Bible. Il n'y a que nous qui donnons cette explication à tout ce qui se passe. Le mal. Quand vous regardez ce qui vient de se passer, là, avec la petite fille, là. Vous voyez, le gars, il a 23 ans, là. Hein, il sort de chez lui, là. Parce qu'il a perdu au jeu vidéo, il n'est pas content. Et là, tout d'un coup, il voit une gamine, et il dit « fais-moi ton téléphone ». Et puis, il lui sort le couteau et il la poignarde. Mais c'est diabolique, ça. Hein? Mais ça, c'est une puissance. C'est une puissance du péché. Et tous les grands savants, tous les grands psychologues et tout, sont en train d'examiner le gars pour dire « mais comment ça se fait? C'est pas normal, tout ça ». Et nous, on a l'explication. C'est la puissance du péché. Bien sûr. Le péché est le responsable de tout ça. Okay? Et donc, vous voyez, là, j'en ai mis quelques-uns. Mais après, nous, personnellement, si on veut vraiment améliorer nos relations, si on veut vraiment être dans la volonté de Dieu, eh ben, c'est de mettre à jour notre propre dysfonctionnement. Donc, ça va être l'objet des prochaines soirées. Petit à petit, le Saint-Esprit va travailler avec vous. Vous savez que le Saint-Esprit, il connaît tous vos dysfonctionnements. Et comme on a vu la semaine dernière, Il faut abaisser la barrière du déni. Pas dire non, 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 ça c'est pas moi ça. Okay? Mais au contraire, il va falloir un petit peu s'enquérir. Regardez bien. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Donc, peut-être poser la question un petit peu aux autres, entourage, pour dire, chérie, est-ce que tu crois que j'ai des petits dysfonctionnements? Est-ce que ça pourrait arriver, chérie, que tu as vu en moi des petits dysfonctionnements? Je ne vais pas m'énerver, je te jure. Vas-y, dis les bois. Et puis là, par contre, quand elle va les dire, il ne faut pas que vous soyez sur vos grands chevaux en disant « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?» Il faut être capable de dire « Ah bon ? Tu crois ? Je note. » Bon, après, vous pouvez les amener, évidemment, devant le Saint-Esprit. Hein, parce qu'il faut quand même les valider par le Saint-Esprit, parce que des fois, l'autre peut exagérer un petit peu aussi, ça peut arriver. Donc, après, on peut aller voir les enfants. Hein. Mais il faut être humble, il faut être prêt à entendre ce que les autres pensent de vous. Et que jusqu'à maintenant, on ne vous l'a pas dit parce que peur de la réaction. Comment ça va être pris? Donc, peut-être se servir de ça. Et puis, il y a aussi le carreau 3. Il y a aussi ce que déjà vous savez sur vous. Tout ça, on peut le noter sur le petit cahier qui va bien là. On peut noter tout ça. Puis vous allez voir comment le Saint-Esprit va vous en faire mettre quelques-unes en plus. T'es sûr? Oui, vas-y, vas-y. T'es sûr? Oui, 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 vas-y, vas-y. Donc le travail, il commence. Bon, le travail a déjà commencé. Hein. Mais le travail continue. Mais aussi, nos manques aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas tout. L'épanouissement, le péché, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a déformés et ça a occasionné des manques aussi. Là aussi, la liste, elle est longue. J'en ai mis quelques-uns, mais il y en a plein. Peut-être un manque de communication. Hein? Peut-être que vous avez une femme qui est frustrée parce que vous ne parlez pas. Parce que vous n'êtes pas capable d'aligner un mot sur un sentiment. Et c'est le résultat. Peut-être, on le verra, de liens générationnels. Si dans votre famille, on n'a jamais parlé de ses sentiments, exprimé ses sentiments, mis des mots sur les sentiments, peut-être que vous avez été baigné là-dedans et que c'est compliqué pour vous de ressentir quelque chose, de mettre un mot sur ce ressenti et de le dire à quelqu'un. Ça fait beaucoup. Et ce qui fait que la communication n'est pas là, mais c'est surtout l'intimité qui n'est pas là dans le couple. Parce que vous avez l'impression d'avoir un étranger à côté de vous. Et vous pouvez aussi avoir eu ce phénomène avec vos enfants. C'est-à-dire que vous avez pas su communiquer avec vos enfants au niveau de ce qu'ils ressentent, au niveau de leurs sentiments. Vous n'avez jamais posé des questions pour vous intéresser à eux d'une manière plus intime. Oui, ce genre de problème qui arrive dans les familles, hein, où le papa, il est catalogué, ouais, c'est papa, qu'est-ce que tu veux, et puis on fait avec. Et ça, c'est pas épanouissant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un manque de tendresse. Hein. Peut-être que vous n'avez pas connu la tendresse, vous êtes peut-être né dans un foyer où c'était plutôt la guerre que la tendresse, et peut-être qu'on ne vous a pas communiqué de tendresse, et que vous ne savez pas faire. Donc, manque de tendresse, soit avec la femme, soit avec le mari, soit avec les enfants. Hein? Donc ça aussi, il faut oser le mettre pour changer. Parce que Dieu est capable de tout nous donner. Quand vous voyez le fruit de l'esprit, il y a tout dans le fruit de l'esprit. Et Dieu nous l'a donné. C'est à nous de faire la relation avec ce fruit de l'esprit que Dieu a déposé en nous et de l'utiliser, de le mettre en pratique. Ça, c'est une transformation. Là, on est transformé. Là, on devient authentique. Et là, on peut dire, waouh, t'es le gars, il a changé. Comment il a fait? Et là, on peut donner gloire à Dieu. Là, on peut dire, c'est le Saint-Esprit qui a agi en moi. Tu vois? Et par exemple, je prends un exemple tout bête qui me vient à l'esprit. Imaginons que le gars, il n'est pas tendre avec sa femme. Mais il est venu un soir au vase restauré, puis ça a fait tilt dans sa tête. Puis là, il a reconnu et a dit « Seigneur, mais donne-moi cette tendresse, je veux ma tendresse. » Mais c'est la femme qui va être heureuse. Amen. Vous imaginez, tout d'un coup, elle hérite d'un gars tendre. Pas besoin de changer de mari. Il était là, le gars. Il avait tout ce qu'il faut. C'était juste qu'il fallait mettre à jour. La femme, on retourne à l'église quand tu veux, chérie. Mais c'est ça, le miracle de Dieu. C'est une vie authentique de transformation. Qu'est-ce qu'on a ? Ben, difficulté à créer de l'intimité, ça revient à peu près au même. Difficulté à montrer une certaine vulnérabilité, ça aussi. Vous avez des gars qui jamais ils veulent paraître faibles. Jamais ils veulent être vulnérables. Mais ça c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais être capable de se confier et de dire qu'on est faible dans ce domaine-là, où chérie, j'ai besoin de toi, je suis faible, mais ça crée de l'intimité. Ben, on peut le faire pour la femme aussi. Mais la femme a plus de facilité dans ce domaine-là. Difficulté pour se confier, difficulté à reconnaître nos torts. Tiens, on va le dire pour les femmes. Allez, pour les femmes. Difficulté à reconnaître les torts. Ben, par exemple. Et vous savez comment ça va finir, la fameuse phrase ? Bon, de toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi. Tu veux toujours avoir raison. Oh, ça sent le vécu, ça. Ça sent le vécu. Ah oui, ça marche bien. Alors, difficulté. Maîtrise de soi, pareil. C'est un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Là encore, voyons dans quelles conditions je m'énerve. Dans quelles conditions je m'irrite. Ah, qu'est-ce qui m'irrite, celui-là ? Ah là, oh, il m'énerve. Oh, il m'énerve. Mais ce n'est pas le problème. Parce que lui, il t'énerve, mais un autre va t'énerver. Tu veux résoudre le problème. Pourquoi ça t'énerve ? Regarde à l'instant T, arrête-toi. Il dit, mais qu'est-ce qui m'a énervé ? Qu'est-ce qui m'a énervé ? Pourquoi il m'énerve ? C'est son tête ? J'ai un problème alors. Pourquoi sont en tête ? Il m'énerve. Oui, il y a de quoi travailler sur soi. Parce que n'oubliez pas que la qualité des relations, elle est là. Aimer son prochain comme soi-même. Si aimer son prochain comme soi-même, ça commence par dire son tête minir. Ça va être compliqué d'aimer son prochain comme soi-même, je te le dis. Hein? Donc il faut regarder tout ça. Ok ? Mon impulsivité. Le gars, il répond, il s'énerve tout de suite. Ou la femme, changeons un peu, parce que les gars, ils en ont marre. En prenant la femme, la femme s'énerve tout de suite. Tu n'as pas fini ta phrase que déjà, elle s'est énervée. Alors, on va aller loin dans la communication. Hein. Manque de confiance en soi, pareil, là encore aussi, timidité, manque de confiance en soi. Mais tout ça, ça se corrige avec le Seigneur. Le manque de confiance en soi, j'ai tout un enseignement sur l'estime de soi. Hein? On n'a pas conscience que notre estime de soi, elle a été malmenée parce qu'elle a été construite sur les standards de ce monde. Et comme on ne répond pas, à part quelques-uns, aux standards de ce monde, mais on est toujours disqualifié. Nous, notre estime de nous-mêmes, elle n'a de validité parce qu'elle est construite sur un fondement qui s'appelle Christ. Et Christ, il t'aime. Amen. Parce que tu as de la valeur. Ton estime de toi, elle est dans ce que Christ pense, dit, fait pour toi. Il ne faut pas se tromper. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à restaurer. Enfin, à nos liens ancestraux. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de parler au Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans la vie. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez des péchés qui se transmettent de génération en génération. De même qu'on a des maladies héréditaires, hein, quand vous faites du diabète, ben, souvent votre médecin va vous dire, mais est-ce qu'il y avait du diabète dans votre famille ? Hein ? Et ben, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas un médecin qui va vous dire, et pour le péché, comment ça se passe ? Vous avez des problèmes dans votre famille avant ? Donc, c'est que le spirituel qui s'occupe de ça. Mais vous avez des liens familiaux, des liens qui se transmettent de génération en génération. Si je vous prends le cas d'Erland, par exemple, vous allez voir comment il y a une continuité. Hein, vous avez Erland à 20 ans à peu près, hein, dans ses oeufs, 16 ans. Erland à 16 ans, avec une petite fille. Non, c'était quand tu veux te suicider. C'est quel âge ? 22 ans. Avec
Gwen,
Avec Gwen, voilà, c'est ça. Donc, on a Erland, pensée suicidaire avec sa petite fille, qui, finalement, Dieu l'a protégée. On change de génération. Vous avez Gwen, pensée suicidaire dans les 20 ans, à peu près la même chose. Et vous changez de génération. Vous avez aujourd'hui et là, pensée suicidaire, même âge. Vous trouvez que c'est le hasard ou? Voilà. Donc, vous avez trois générations, bizarrement, à peu près dans la même période, et vous avez pensée suicidaire à chaque fois, passage à l'acte. Attention, ce n'est pas que pensée suicidaire, c'est aussi passage à l'acte. Si vous n'y croyez pas, moi je crois. Moi je crois que c'est diabolique tout ça, et qu'on reçoit des choses de nos ancêtres, de ce qui s'est passé. Si dans votre famille, vous avez des gens qui ont trafiqué au niveau de la religion tamoule ou de la religion malgache ou hein la sorcellerie par exemple, vous voyez, ils ont invité des démons à venir et ils ont donné des droits à ces démons là d'accord, et donc ben vous pouvez des fois vous n'avez pas trafiqué mais vous pouvez avoir des manifestations diabolique et vous comprenez pas ce qui se passe. Et c'est simplement que de génération en génération, les démons se sont acquis des droits.
Gloire à Dieu que le Seigneur, le grand et tout puissant, il t'amène à la délivrance.
Amen.
Et franchement, j'ai une joie de vivre qui pète de feu chaque jour. Ma life est remplie de joie.
Amen.
Et ma fille Gwen, elle était délivrée de ça. Elle nous a emmenés à Dieu. Et ma petite fille est là aussi, on a fait des pasteurs, on a prié pour elle, délivrée de ça. Et un jour, mon fils m'a dit, maman, mon fils, j'ai deux enfants, Gwen et Freddy, m'a dit, maman, je suis partie à et je voulais me jeter. Et une force m'a dit, fais pas ça. Tu vois, Dieu est grand.
Amen. On continue. Donc, cette seconde étape amène le croyant à découvrir Dieu tel qu'il est, et à lui confier entièrement sa vie. Et ça, ça va être une clé. Pourquoi ? Ben, c'est toujours pour goûter et vivre la vie éternelle, Zoé. Mais là, vous voyez, c'est ça qui va être question. C'est que là, on rigole pas. Si je veux vraiment goûter à cette vie-là, que je veux pas seulement être victime de mes dysfonctionnements toute ma vie, eh ben, je vais devoir remettre ma vie entièrement à Dieu. C'est un vrai choix. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Donc, tenez bon, n'allez pas vous replacer sous un joug. Oui, Zoé, vie éternelle. C'est en grec. Ouais, c'est Zoé. Hein? Et vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ouais. Ouais, ouais, c'est parce que je l'avais expliqué au départ, mais c'est vrai que je ne leur dis pas à chaque fois. Donc, tenez bon, n'allez pas vous replacer sous un joug. Dieu nous a affranchis, nous a libérés. D'accord ? Donc, ce n'est pas pour se remettre sous un joug. Refusez de vous laisser imposer des nouvelles chaînes, des chaînes de la servitude. On est délivrés. Il faut nettoyer tout ça. Il ne faut pas vivre avec quelque chose qui nous rend asservi. Cette deuxième étape constitue une vraie conversion en soi. Si vous avez estimé que la conversion, vous l'avez faite, et peut-être que vous ressentez que vous n'avez pas complètement tout abandonné à Dieu, ben cette deuxième étape, elle est là pour ça. Elle est là pour vous dire, waouh, c'est sérieux. Il faut que je donne toute ma vie à Dieu, sinon je vais trimballer des affaires toute ma vie. Une conversion, c'est un passage à quelque chose de nouveau, à une conviction nouvelle. Ce soir, j'aimerais que le Saint-Esprit vous visite pour vous donner cette conviction nouvelle. Que vous donniez votre vie entièrement à Dieu et que ça va changer. Qu'il y aura du changement dans votre vie. Amen. Pas en partie, pas quelques endroits, la totalité. Un joug, vous savez, c'est en agriculture, c'est une pièce de bois qui a cette forme-là. Un arceau, un deuxième arceau. D'accord ? Deux arceaux. Et ça servait à quoi ? Ça servait à atteler, en général, deux bœufs. On mettait le joug dessus de façon à ce que la charge soit répartie. C'est-à-dire qu'au lieu que toute la charge soit sur un seul bœuf, eh ben, on mettait le joug et tous les deux étaient obligés de marcher au même pas et porter la charge. Ça va ? Donc, le joug de Jésus, il te dit, prenez mon joug à moi. C'est-à-dire, marchez avec moi d'un même pas. Marchons ensemble. Confiez-moi votre vie. Portez mon joug. Mon joug, il est doux et léger. Et je vous donnerai du repos, vous qui êtes fatigués. Donc, le poids de la vie, le joug représente le poids de la vie, le poids du péché, le poids de tous ces dysfonctionnements-là. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui portez ce joug, mais tout seul, en quelque sorte. Hein, et bien là, je viens avec vous et Jésus porte le joug pour nous. Et il est doux et léger. Amen. Et là, ce soir, nous allons nous tourner vers la vraie solution. C'est l'espoir. L'espoir, nous en sommes venus à croire qu'une puissance plus grande que nous pouvait nous redonner la maîtrise de notre vie. Alléluia ! C'est ça la bonne nouvelle. La semaine dernière, on a vu la puissance du péché, mais aujourd'hui, on voit la puissance de Jésus, la puissance de la résurrection, la puissance du sacrifice de Jésus qui est là, qui a fait son travail pour chacun d'entre nous. Et qui ce soir s'en empare devient puissant en Christ. Et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Si tu subis encore tes dysfonctionnements, sache qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Ils vont disparaître au fur et à mesure que tu vas les amener au Seigneur. Amen. Cette seconde étape concerne la foi. Croire et avoir confiance. Il ne s'agit pas d'une foi religieuse ou intellectuelle, mais d'une foi basée sur l'expérience, une foi authentique, une foi qui se nourrit de l'espoir que les choses vont changer. On n'est pas dans une foi qui correspond, comme la religion, hein, à une foi qui serait stérile. Là, c'est une foi qui vient d'une conviction. J'ai l'espoir, Jésus va me transformer. Jésus va m'arroser de ses eaux vives. Et là où je suis malheureuse, là où je connais la dépression, là où j'ai des idées de suicide, là où ma vie, je ne vois pas de sens à ma vie, Dieu va changer ta vie. Amen. Plein d'autres gens l'ont essayé, l'ont testé, ça marche. Donc pour nous qui sommes chrétiens, eh ben c'est encore d'aller plus loin et de dire « Waouh, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de cette vie-là. Je veux plus être victime de mes dysfonctionnements, de mes manques, de ce que j'ai subi quand j'étais petit et tout ça, et puis que je traîne ça encore, c'est pas nettoyé. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones de honte dans ma vie, il y a des zones où je suis pas à l'aise. Non, Dieu t'appelle à une vie épanouie. Amen. Dans cette seconde étape, croire nous amène à la foi, et la foi nous amène à un Dieu, mais à un Dieu qui veut et qui peut. Dieu, c'est un Dieu qui veut et qui peut. Il veut le meilleur pour toi. Ne doute pas de ça. Dieu veut le meilleur pour toi, et tu sais quoi? Il peut. Tout est possible à celui qui croit. Voici l'essence de cette étape, c'est expérimenter personnellement Dieu. C'est vers ça qu'on va aller. Donner sa vie, mais on ne donne pas sa vie à n'importe qui. On donne sa vie à Dieu parce qu'on expérimente Dieu, parce qu'on veut une vraie relation. C'est la personne, Dieu, qui va prendre le plus de place dans ma vie, puisque c'est celle que je vais aimer en premier, avant ma femme, avant mon mari. Je le souhaite à chaque personne qui place Dieu avant sa femme, avant son mari. Moi, je veux que ma femme aime Dieu plus que moi. Parce que qui va en tirer les bénéfices? Mais c'est Bibi. Et oui, si elle aime Dieu plus que moi, elle va tout faire dans la volonté de Dieu. Et elle va m'aimer comme elle s'aime. Et oui. Et donc le plus heureux, c'est moi. Alléluia. Aime Dieu, ma chérie, mais fais tout ce que Dieu te dit de faire. Il n'y a pas de problème. croire en un Dieu qui nous aime et nous accepte tel que nous sommes constitue le premier pas de la foi. Premier pas de la foi, c'est croire que nous sommes de Dieu, que Dieu nous aime, hein, et qu'il nous aime surtout comme on est. Waouh ! Je vais vous dire, il n'y a pas grand monde qui nous aime comme on est. Ça, je vais vous le dire. Ça, pour nous faire changer, il y a beaucoup de monde. Hein. Mais alors, de nous aimer comme on est, depuis qu'on est petit, waouh ! Jamais à la hauteur, jamais comme il faut, jamais assez, jamais, jamais, jamais. Tu te demandes si un jour, ça serait possible. Et là, tu as un Dieu qui t'aime comme tu es. Waouh ! Il t'aime de manière inconditionnelle. Waouh ! Réfléchissez deux minutes. Ce n'est pas un Dieu qui nous aime avec des conditions. Il nous aime, point barre ! Ça n'existe pas dans cette terre. Les hommes, ils vous mettront toujours des conditions. Réfléchissez. On a toujours des conditions pour être aimé par quelqu'un. Il n'y a que Dieu vers qui on peut se tourner. C'est notre papa. C'est celui qui nous a créés en réalité parce que c'est celui qui a décidé qu'on serait là sur cette terre et il nous aime. Waouh ! On est aimé. Oh, je crois que vous n'avez pas compris. On est aimé ! Là, vous avez compris. Il faut en venir à cette réalité. Le défi pour beaucoup de gens consiste à déraciner les mauvaises représentations qu'ils ont de lui. Beaucoup de gens humanisent Dieu et rendent les hommes comme Dieu. Ben oui, en réalité, Dieu, il est tout puissant. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il ne faut pas le comparer à un homme. Ça ne marchera pas. Hein? Mais il peut intervenir dans la vie de milliards d'hommes humains, d'êtres humains en même temps. Il est ce soir présent. Et il est présent dans d'autres endroits. On ne peut pas humaniser Dieu. C'est ça qu'il faut avoir. Si on compare avec nos possibilités à nous, on va le réduire. Et en fait, non, on ne peut pas connaître Dieu. Ça dépasse notre imaginaire. Par contre, avec la foi, on peut penser que ce soir, il est en train de parler à chacun d'entre vous. Il prend mes paroles et il donne sa parole à chacun d'entre vous et il vous parle avec les besoins que vous avez. Et il répond à vos besoins. L'école de Dieu ou l'école de la foi. Il n'est pas facile de grandir spirituellement. De lâcher ce que Dieu nous demande de lâcher, de mourir à nous-mêmes, de nous soumettre à une autorité, d'apprendre à obéir, de comprendre que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Bref, d'être humble et de faire confiance à Dieu. C'est l'école de Dieu. Elle n'est pas facile. Il y a à mourir sur nous-mêmes, il y a à accepter la volonté de Dieu, mais c'est le défi à relever. C'est le chemin de la vie entre le connu à gauche, et l'inconnu à droite. Entre garder mes habitudes à gauche, ce que je connais bien, le chemin il est tracé, je le prends tous les jours, il n'y a pas de problème, et changer d'habitude et prendre un chemin que je ne connais pas. La Bible dit, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais resserré, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Un petit peu le défi. Pour faire une totale confiance à Dieu, notre relation avec lui doit être basée sur son amour. C'est la clé. La clé de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu. C'est pas ce qu'on a, c'est pas le verbe avoir, c'est pas ce qu'on peut présenter à Dieu qui a de l'importance. C'est pas ce qu'on fait non plus qui a de l'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes est important. Et ça va à l'encontre de tout ce que les hommes te diront, avec un grand H. Tu vois ? Ce qui compte dans cette vie, c'est ce que tu as. Ce qui compte dans cette vie, c'est ce que tu sais faire. Tu vois ? Ce que tu es, ça va dépendre un petit peu de qui tu es, quoi. Tu fais quoi dans la vie ? T'es chômeur ? Bon, excuse-moi, j'ai autre chose à faire. Tu fais quoi dans la vie ? T'es docteur ? Oh. Comment tu t'appelles ? Oui, c'est vrai. Dieu nous aime tels que nous sommes. En donnant toute notre vie à Dieu, nous sommes devenus les sarments de Christ. La parole de Dieu nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous voyez, c'est ce niveau de relation intime, unique, dans lequel nous sommes devenus interdépendants. Le cep et le sarment, il est relié à la branche, il est relié au cep. Il ne s'en défère jamais, il est en continu. Oui. C'est ça le niveau de relation. C'est unique, ça existe avec... Vous ne pouvez pas trouver cette relation dans le monde. Hein? Une relation avec le cep, l'arbre et la branche qui est reliée. On est à ce niveau-là. Et là, ça va vous donner une idée de la nouvelle créature que nous sommes devenus. Parce que pour une grande partie, notre identité, elle découle de notre hérédité. Oui. Tant qu'on ne connaissait pas Dieu, qu'on ne connaissait pas qui était le Seigneur, notre seule référence, c'est notre famille, c'est notre hérédité. Voilà d'où nous venons. Oui. Mais une fois qu'on est converti, on change d'identité parce qu'on n'a plus cette identité terrestre. On a l'identité en Christ.
Amen.
Vous voyez, je suis le cep, vous êtes les serments. Notre identité, maintenant, elle se trouve en Christ. D'accord ? Ce n'est plus cette sève familiale qui coule en nous, qui perpétue les dysfonctionnements de génération en génération. Mais maintenant, c'est la sève de Christ qui coule en nous, mettant fin à tous ces dysfonctionnements et permettant à la vie de Christ de couler en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez l'explication de Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les serments. Ma vie, elle coule en vous. Mettre Dieu en premier dans ma vie, exprimer l'amour envers mon prochain, manifester les fruits de l'esprit, la grâce, la miséricorde, c'est ça qu'on peut faire avec Dieu. Mais sans Dieu, on ne peut pas. Amen. C'est ça le vrai miracle dans la vie d'une personne. Ça, c'est le miracle. C'est un cœur changé, un cœur transformé. Parce que maintenant, nous sommes branchés à la bonne source. Vous comprenez ça? On n'est plus branchés à la source des hommes. Parce que les hommes n'ont pas la capacité d'alimenter cette source comme il faut. Mais Dieu a cette capacité d'alimenter notre source. Et on peut maintenant exprimer l'amour pour notre prochain. On peut manifester le fruit de l'esprit. On peut manifester la grâce et la miséricorde parce que sa vie coule en nous. J'ai prêché hier soir la femme samaritaine. C'est ce qui s'est passé pour elle. Elle était au bord de la société. Personne ne voulait plus d'elle. Son canard était noir. Mais Jésus est arrivé. Il lui a donné les eaux vives. Il a dit, je te donne la vie. Et là, wow, changement de personnalité, changement d'identité. Elle qui avait la honte de tous ses compatriotes, parce qu'elle était déjà arrivée au sixième gain, donc ça commençait à faire beaucoup. Hein. Elle était cataloguée, d'accord. Elle a posé sa cruche, elle a tous été les voir, et puis elle a dit, venez voir, venez voir. Et elle est devenue la première évangéliste de la Samarie. Amen. Extraordinaire. Là où tout le monde l'avait cloué au pilori, personne ne voulait d'elle. On l'avait bannie. Elle était obligée de venir chercher de l'eau à midi sous le soleil. Personne ne voulait plus la voir. Sauf Jésus. Jésus comptait sur celle que plus personne ne voulait voir. La honte du village. Jésus en a fait un vase d'honneur. Amen. Les eaux vives de Dieu, ça change une vie. Ça change la vie. À travers le processus de la transformation et de la régénération par la volonté de Dieu et la nôtre. Dieu ne fera rien sans notre volonté. C'est que le péché avait réussi à créer dans ma vie et est en train de disparaître au profit des caractéristiques de Jésus. Alléluia. Je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont en train de passer. toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Amen. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu. C'est le défi de ce soir. Seigneur, pour de vrai, pas pour de faux, je te donne toute ma vie. Prends tout, Seigneur, prends tout. J'ai besoin que tout soit régénéré. Je veux être dans mon plein potentiel. Je veux retrouver le potentiel que tu avais prévu pour moi avant d'être atteint par le péché. Amen. Lors de la première étape, nous avons acté que nous étions incapables de régler nos problèmes par nous-mêmes. L'acharnement infructueux, le sentiment d'échec, le désespoir de ne pas voir notre vie changer nous ont amenés à reconnaître notre totale impuissance. En conséquence de cette première prise de conscience, nous avons renoncé à nos vieux dieux, nous-mêmes, notre autosuffisance, notre fierté, notre orgueil et nos capacités propres. Ça ne sert à rien. Nos souffrances et nos échecs à répétition nous ont conduits à nous tourner vers quelque chose de plus grand que nous, c'est-à-dire Dieu. Nous avons compris qu'il n'était pas l'auteur de nos maux, ni le témoin passif de nos malheurs, mais qu'il était là pour nous aider et pour nous restaurer. Cette prise de conscience va nous amener à passer de la résistance au changement. En nous abandonnant à Dieu, nous allons faire tomber des barrières d'impossibilité. Dieu va nous rendre capables et nous allons devenir cette nouvelle créature reformée par la puissance du ressuscité. Alléluia ! À chaque étape, c'est un pas de plus vers la restauration de votre être intérieur et vers une pleine liberté. Vous allez être libre, libre de vos prisons intérieures, libre de votre timidité, libre de votre honte, libre de votre culpabilité, libre de vos peurs. Vous allez être libéré. Amen. La deuxième étape commence donc par une décision. Et là, le mot décision, étymologiquement, c'est le verbe décider qui signifie couper. Il s'agit à cette là ce soir, il s'agit à cette étape là de placer une ligne de démarcation dans le temps présent qui va trancher entre un passé douloureux et un futur plein de possibilités. Ce soir, nous changeons de vie en donnant toute notre vie au Seigneur et en lui disant: Seigneur, je vais faire le travail. Oui, je vais regarder à tout ce qui va pas dans ma vie. Seigneur, tu vas m'aider. Je vais arrêter de pleurnicher sur mon sort. Je vais arrêter de faire le caliméro. Je vais arrêter de dire que c'est toujours la faute des autres. Je vais regarder à ce que le péché a fait dans ma vie parce que je veux régler le problème. Amen. Et une fois qu'on aura bien défini tout ça, on verra dans les étapes, on va demander à Dieu de nous laver, de nous purifier de tout ça. On ne veut plus être embêté par tout ça. Amen. La décision de tout abandonner à Dieu devient une borne sur ce chemin de rétablissement. Il y aura un avant et un après cette décision. Mais ce soir, la décision est prise. Cette décision fait suite à mon désir de changement et à ce que je ne veux plus dans ma vie. Je ne veux plus continuer à vivre de cette manière. Je ne veux plus rester empêtré dans mes habitudes nocives. Je ne veux plus demeurer aux prises avec ces comportements destructeurs, ces conduites malsaines. Je ne veux plus continuer à souffrir ainsi. À l'inverse, je veux être cette personne qui exprime son plein potentiel. Amen. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie. Littéralement, confier signifie remettre au bon soin, à la garde de quelqu'un. Il y a donc un approfondissement de la foi, mais aussi une soumission, un abandon de notre volonté et de notre vie à Dieu. Et ça, ça peut amener de la résistance. Est-ce qu'on fait suffisamment confiance à Dieu pour lui confier notre vie? Est-ce qu'on a suffisamment confiance en lui? C'est pourquoi Dieu nous donne ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. C'est lié. Je ne peux pas donner ma vie à quelqu'un. Bon, ce quelqu'un, c'est Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Et en même temps, de ne pas tout lui donner, de ne pas être en accord avec lui sur ma façon de penser, sur ma façon d'être. Je marche avec lui. Je peux pas lui donner ma vie et ne pas marcher avec lui. Je lui donne ma vie et je marche avec lui. Je me confie complètement en lui. Je m'abandonne, je me lâche. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais qu'est-ce que ta volonté ? Ta volonté, c'est la faculté chez toi de déterminer ce que tu veux et ce que tu prends comme décision pour l'accomplir. Ta vie, elle appartient à Dieu. C'est une décision qui est basée sur l'amour. Plus nous nous abandonnerons à Dieu en lui remettant toute notre vie, plus nous serons épanouis, plus nous goûterons à la vraie vie, à la vraie liberté. Mais plus nous ferons preuve de résistance en voulant garder des pans de notre vie, plus nous retarderons la possession de cette vie en abondance que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Pour arriver à relever ce défi, il est important de ne pas humaniser Dieu. Dieu n'est pas un homme pour te mentir, n'est pas un homme pour te trahir, n'est pas un homme pour t'abandonner ou pour te rejeter. Il veut et il peut accomplir ses promesses en toi. Un lâcher-prise est nécessaire parce qu'il va falloir s'abandonner. C'est un acte de confiance, un acte primordial, décisif. Je relâche ce qui me retient dans mes habitudes nocives, mes pensées confuses, mes actions néfastes, l'obsession de contrôle autour de moi. Je lâche tout ça pour m'abandonner entièrement à Dieu et lui faire confiance. Voilà le défi. Lâcher prise et lui faire confiance. Vous pourrez avoir l'impression quelquefois de sauter dans le vide, mais ses mains sont là pour vous rattraper et vous secourir à chaque fois que vous ferez le saut de la foi. Il ne se trompe jamais et ne fait pas d'erreur. Peu importe votre condition, il y a non seulement de l'espoir pour vous, mais énormément de possibilités de changement et de dénouement heureux. Apprendre à faire confiance à Dieu, c'est accepter qu'il a un nouveau plan pour votre vie. C'est une chose de croire en Dieu. C'est autre chose de lui confier toute sa vie. Ce n'est pas la même foi. On va dans une foi beaucoup plus profonde. On va dans un lâcher-prise où on dit « Seigneur, je m'abandonne complètement à toi et je veux faire toute ta volonté. » Vous comprenez ? On va aller chercher un niveau de relation qui est différent. Un niveau de relation qui est vraiment basé sur une confiance que Dieu est là pour toi, qu'il est tout puissant et qu'il veut ton bonheur. Et il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Relevons le défi ce soir. Confions entièrement notre vie à Dieu avec une foi ferme. Ainsi, nous nous maintiendrons dans une position de victoire par la puissance de l'Esprit et par les soins du Seigneur. Nous jouissons donc du bonheur d'avoir Dieu pour nous, de l'avoir avec nous et de l'avoir en nous. Le défi, c'est de confier sa vie. C'est de, le mot-clé, s'abandonner à Dieu.